Alors, le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles est une association qui a une mission d'intérêt général.
La minute du CIDFF.
De parler de beaucoup de sujets, de beaucoup de thèmes qui sont en relation avec vos missions.
Le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles.
Venir interroger chacun d'entre nous sur nos représentations et puis de pouvoir observer pour pouvoir peut-être bouger les choses.
Sur 48 FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre émission La Minute du CIDFF sur 48 FM avec une nouvelle chronique. C'est Lara qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Lara.
Salut.
Alors aujourd'hui, on va parler de migration, femmes et migration, c'est le thème de cette émission.
Du coup, je voulais ouvrir cette minute avec vous par un petit clin d'œil justement sur ce qui s'est passé le 8 mars 2023, où il y a un certain nombre d'organisations, dont les CIDF, qui ont appelé à une grève féministe. Et l'appel à la grève, il commençait comme ça. Nous appelons à la grève féministe en solidarité avec nos sœurs du monde entier, dont certaines vivent sur les routes de l'exil. Voilà. Parce que, aujourd'hui, très brièvement, trop brièvement, bien sûr, j'aimerais vous parler des femmes migrantes, des femmes qui quittent leur pays et leur continent. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, on se contente de parler des personnes migrantes, avec des images d'hommes dans des bateaux, sur les routes. Ce mot, il est banal, voire péjoratif. Cependant, il faut savoir que environ la moitié des personnes migrantes dans le monde sont des femmes,
les migrants. Voilà. On n'a pas l'impression. Ouais.
Non, vraiment. Alors qu'en fait, la moitié des personnes qui arrivent sur le territoire, ce sont des femmes. Donc, et c'est pas du tout une image qui vient, pas du tout. Les migrations féminines, elles ont souvent et longtemps été perçues et présentées comme une migration de type familial. En gros, des femmes qui venaient rejoindre leur mari sur le territoire. Alors qu'en fait, cette vision, elle n'est pas conforme à la réalité du tout. Les femmes qui partent, elles partent pour différentes raisons, qui s'entremêlent parfois. Des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons environnementales. On en a parlé sur la minute écoféministe il y a peu de temps. Mais elles partent aussi à cause des discriminations de genre qu'elles vont subir. Et il y a une raison au fait qu'on parle trop peu du fait des femmes migrantes. Il y a des sociologues qui ont réfléchi à cette question-là. Des sociologues comme, Elsa Tisler. Parfois, effectivement, pour se protéger, pour se mettre en sécurité, les femmes, elles vont s'invisibiliser parfois d'elles-mêmes. Elles vont pas se mettre en avant, elles vont pas prendre le devant, voilà. Mais quand même, l'invisibilisation des femmes migrantes, des femmes en exil, c'est surtout le résultat du discours politique et médiatique axé sur les hommes. Depuis les années 90, on assiste vraiment de plus en plus à une forme de discours, à une mise en avant d'une figure noire du danger migratoire. On va se faire submerger. On a des hommes noirs qui sont montrés menaçants. Souvent, on a des images avec des photos où les hommes, ils sont torse nus, ils passent des grillages, ils montent dans des bateaux, voilà. Et pourquoi on a des images comme ça? C'est plutôt judicieux pour des gouvernements hostiles aux migrations de montrer cette image-là. Car souligner la présence de femmes, la présence d'enfants, c'est bien moins vu pour justifier de politiques d'asile de plus en plus restrictives et de politiques d'inhospitalité. Parce qu'on va pas se mentir, voilà, les politiques.
Ça peut attendrir de voir, oui.
Bien sûr. Et que les politiques migratoires, ces dernières années, elles se sont de plus en plus durcies. Et que dans nos joyeuses sociétés patriarcales, l'image de la femme et de l'enfant amènerait quelque chose de l'ordre du sauveur. Voilà. Pourquoi c'est quand même très important de dire qu'il y a des femmes qui migrent? Alors c'est important pour tout un tas de raisons, et pour une raison pas forcément très joyeuse. Parce que entamer un parcours de migration aujourd'hui, c'est quand même se jeter la tête la première dans l'inconnu. Mais pour les femmes, le périple migratoire, c'est vraiment la double, voire la triple peine. Il faut savoir que quasiment 95% des femmes migrantes sont victimes de violences sexuelles. Donc, elles vivent ces violences dans les pays d'origine, mais aussi dans les espaces frontières, les sas d'attente, sur les routes et dans le pays d'arrivée, en France notamment. Et ce, par une pluralité d'acteurs, hein. Les militaires, les policiers, les passeurs, mais aussi les gens lambda qu'elles vont croiser, les hommes lambda. Elles sont tributaires du bon vouloir d'un certain nombre d'hommes qu'elles vont croiser sur leur chemin et qui leur donnent des passe-droits. Ça va entraîner, bien sûr, je ne vais pas vous parler des conséquences catastrophiques, parfois des grossesses non désirées, des tentatives d'avortement, etc., etc. On a souvent trop tendance à parler de femmes vulnérables. Mais en fait, vulnérables, elles ne le sont pas. Elles sont rendues vulnérables par les hommes notamment qu'elles vont croiser. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on va très facilement reconnaître aisément, vraiment, on va facilement reconnaître la violence qu'elles vont vivre dans leur pays d'origine. Sous-entendu, oui, de toute façon, ces peuples-là, là-bas, on sait bien, ils n'aiment pas les femmes, ils les maltraitent, etc., etc. De manière parfois complètement néocoloniale, en fait, où on va stigmatiser certaines cultures. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de violence, mais la question de la reconnaissance des violences dans les parcours migratoires, et notamment dans le pays d'arrivée, elle est hyper importante. En Lozère, par exemple, on a la chance d'avoir quasiment personne ou pas qui dorme à la rue. Mais c'est pas le cas du tout. Partout en France, où par exemple, la question du logement, elle est très complexe. Et donc, quand on a peur d'y aller, quand on veut pas aller dormir à la rue, que les services d'urgence y sont saturés, que les femmes elles sont obligées de trouver des pseudo-arrangements économico-sexuels pour trouver où dormir, on n'imagine même pas. Au CIDF de Lozère, le nombre de femmes migrantes qui ont subi des violences sexuelles, c'est quasiment la totalité des femmes qu'on va accueillir. On reconnaît, par exemple, l'excision en France pour obtenir un droit au séjour. Et encore, c'est franchement pas toujours facile avec ça. Mais alors, imagine le reste. Enfin, on a parlé parfois des violences qu'on subit, que tout le monde subit. Mais alors, quand t'es une femme migrante, c'est la catastrophe. Et je voudrais insister aussi là-dessus parce qu'on a trop tendance à avoir une image des femmes un petit peu passives, victimes dans leur migration. Alors qu'en fait, elles fournissent un effort qui est incommensurable. Et parfois même plus que les hommes, du fait de ces violences de genre qu'elles vont subir. Elles ont souvent la charge des enfants, pour lesquels elles se battent aussi. Quand les femmes, elles utilisent leur corps pour survivre, on va souvent parler de traite des êtres humains. Mais je trouve que ça serait quand même assez intéressant de parler de survie, de résistance et de puissance, en fait. Voilà, donc ça, c'était... Bon, c'est pas le chapitre forcément le plus sympathique, mais c'est une vraie réalité, et en fait, il faut en parler, parce que c'est ce qu'elles vivent, et ça explique aussi tout un tas de manières de se mettre en vie quand elles arrivent, voilà, et de survivre. Il faut aussi parler des femmes migrantes, parce qu'en fait, une fois qu'on est arrivé, qu'on a passé toutes les difficultés de l'accès au droit au séjour, etc., où il a fallu redire l'atrocité du parcours qu'on a vécu, etc., etc., il nous reste... Allez, la double peine de l'accès au marché du travail, la déqualification professionnelle parce que on va te donner des jobs tout pourris, de l'exploitation financière parce que de toute façon on va considérer qu'elles sont pas suffisamment bonnes pour aller avoir des postes à bons revenus, à la précarisation des salaires, la charge des enfants. Voilà, parce que quand on est une femme, on sait bien que c'est déjà compliqué, mais alors quand on est latino-américaine, africaine, arabe, etc., etc., les discriminations et les inégalités, c'est la catastrophe. On parle du féminisme tout le temps et de la violence du système patriarcal, mais croyez-moi, quand on croise cette donnée-là avec le fait qu'on soit une personne racisée, c'est la démultiplication des embrouilles. Voilà, pour pas être grossière. J'essaie de pas dire de gros mots trop ce matin à l'antenne. Et donc du coup, je voudrais vous parler de quelque chose, je vais en parler de manière très séquente, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va le dire comme ça, de ce qu'on appelle l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, c'est un outil théorique qui a été justement pensé pour croiser. Voilà, c'est une grille de lecture sur ces questions-là. Quand on dit intersectionnalité, souvent les gens ils pensent que je vais leur parler du code de la route. Mais non, je vais vous parler d'intersection dans le monde et tout ça. Non, pas du tout. L'intersectionnalité, c'est le concept de l'intersection. L'intersection, oui, mais de quoi ? Eh bien, de l'imbrication, justement, des différents facteurs qui permettent d'éclairer la complexité des inégalités et des rapports de domination. Donc on peut citer bien sûr le sexe, la race, la classe, mais bien d'autres encore, l'orientation sexuelle, l'espace dans lequel on vit, etc., etc. En gros, l'intersectionnalité, ça vient d'où ? Ça vient d'une avocate afro-américaine qui s'appelle Kimberlé Crenshaw et qui est une activiste des droits civiques. C'est une femme noire. Et en fait, elle est la première à avoir dit à la fin des années 80 qu'il y avait des femmes noires qui étaient invisibilisées dans les courants féministes. En gros, qui étaient principalement menées à l'époque par des femmes blanches et qui vivaient pas le racisme. Mais aussi que dans les luttes contre le racisme, qui étaient principalement menées par des hommes noirs, eh ben eux, ils étaient marqués par le sexisme. Donc elle disait, mais en tant que femme noire, en gros, je suis où ? Je me situe où ? Et donc, selon elle, ces différents mouvements, ils renvoyaient pas à une vision assez systémique des inégalités. Parce que effectivement, on vit pas de la même façon qu'on soit noire, blanche, riche, pauvre, homme, femme, hétéro, homo, trans, etc., etc. Donc l'intersectionnalité, ça propose d'analyser ces différents déterminants dans les rapports de domination, et comme je l'ai dit, de penser la complexité de ces inégalités-là. Voilà. En France, on a quand même cette grande portée, cette grande vision un peu universaliste. On est tous égaux, et on est tous égales. Mais en fait, on part pas du même endroit. Et donc, c'est quand même intéressant d'avoir un outil avec une vision, voilà, qui nous permet un peu de nous émanciper chacun chacune par rapport à ce qui nous détermine, quoi. Oui, quand on est une femme, il faut lutter contre le patriarcat. Mais il ne faut pas oublier qu'en tant que femme blanche, par exemple, je suis une femme blanche, on bénéficie de privilèges.
Oui, on ne peut pas comparer la femme blanche hétérosexuelle de 40 ans à la femme noire migrante de 20 ans.
Peut-être lesbienne,
etc. qui traverse le monde. Oui,
c'est ça.
Bien sûr.
Et alors, je vous conseille, on va en reparler un petit peu après, mais si jamais ces questions-là, ça vous intéresse, de venir participer à nos formations. Parce qu'on a justement sur quelque chose par rapport à l'intersectionnalité, où on va faire une activité qui s'appelle la marche des privilèges. C'est une activité qui permet de prendre conscience comment les privilèges vont nous marquer et ce que ça vient jouer. Ça permet une remise en question assez puissante. Parce qu'effectivement, en tant que femme, on a souvent tendance à se sentir opprimée. Mais quand on parle de la couleur de peau, et notamment de la couleur de peau blanche, on va passer du côté des oppresseurs. Et ça vient sacrément remuer quand même. Et c'est quand même très intéressant parce que ça permet de voir les choses autrement. Voilà. Concrètement, quand on vient vous parler à ce micro, les seules choses qui sont importantes pour nous, c'est se questionner, s'émanciper, s'intéresser et bien sûr ouvrir de nouveaux horizons. Voilà. Donc pour terminer, j'ai toujours des petites recommandations à vous faire de lecture, bien sûr. Donc allez lire, bien sûr, Elsa Tisler, Éric Fassin, qui sont des sociologues qui ont pensé ces questions-là, c'est passionnant. Allez lire la géographe Camille Schmoll, qui a écrit un super livre qui s'appelle « Les damnés de la mer », qui parle des femmes dans les bateaux. Allez regarder la série Insecure d'Issa Rae, qui parle de l'histoire d'une femme noire à notre époque. C'est hyper intéressant. Les podcasts Cheap, Kif Taras, Fait Migrante. Voilà. Et trois recommandations de morceaux. Une rappeuse française qui s'appelle Kazé, que j'adore, avec son titre Chuck Berry. Un groupe espagnol qui s'appelle Vivir Quintana, avec la chanson Canción sin Miedo. Et un groupe de femmes ukrainiennes, Dach Daughter, et sa chanson Skufnia Trusach.
Eh bien, merci. On va rester sur ces belles notes de musique et on se retrouve bientôt. Salut, Lara.
Salut.